radio. Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir et merci de nous suivre partout où vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières sur www.radiocapi.net. Comment protéger les forêts communautaires en République démocratique du Congo? On en parle dans quelques instants avec le professeur Jonathan Ilunga, expert en foresterie communautaire de l'Université de Lubumbashi. On aura également en ligne M. Jonas Kiriko, journaliste et senior à Info Nil, basé à Beni, dans la province du Nord Kivu. Des questions et préoccupations, composez les 085 42 11 545, 47 plutôt. Salubrité publique, comment rendre nos villes propres? On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec Alain Parfengoulungou, expert en environnement. On aura également Monsieur Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune de Limété. Voilà, ainsi présenté le menu d'Okapi Service de ce jour. Pour participer, composez le 085-42-11-547. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de votre magazine de la vie au quotidien. Benjamin Moudoumbi assure la coordination et la réalisation de cette émission. Esther Mamboté et Plamedi Ndombé assurent les lives sur le plateforme digitale de Radio Okapi. Sylvain Baouguéré à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Merci de nous suivre sur Canal Plus 951 et sur DSTV 800, Canal 867. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Okapi. Bien, fidèles auditeurs, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. En RDC, de nombreuses concessions forestières des communautés locales censées protéger la biodiversité sont menacées par l'expansion des opérations minières qui empiètent sur des multiples concessions. Selon nos sources, environ 4250 km² des permis miniers actifs chez Vosges, des forêts communautaires dans cette province avec la plus forte concentration au sud Kivu, au nord Kivu et dans le haut Katanga. Ces chevauchements est stimulé par la demande croissante des minéraux critiques pour les véhicules électriques, les énergies renouvelables et les technologies modernes. L'occupation des forêts communautaires entraîne souvent des tensions entre les entreprises minières et les communautés. Un vide juridique et une faible coordination entre les autorités publiques et les autres parties prenantes laissent ces forêts vulnérables, d'après les experts, coincées entre la nécessité de protéger la biodiversité et la poussée industrielle pour les minéraux stratégiques, l'avenir des forêts communautaires congolaises devient de plus en plus incertain. Alors, quelle stratégie adopter pour protéger les forêts communautaires face à la poussée de l'exploitation minière? On en parle dans cette émission aujourd'hui avec le professeur Jonathan Ilunga. Il est expert en foresterie communautaire, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, et à l'université de Lubumbashi. On aura également Monsieur Jonas Kiriko, qui est journaliste et senior à Info Nil, basé à Beni, dans la province du Nord Kivu. Voilà, on va commencer avec Jonas Kiriko. Je pense qu'il est déjà en ligne. Jonas Kiriko. Voilà, on va le recevoir dans quelques instants. Professeur Jonathan Ilunga, comme je l'ai dit tout à l'heure, est professeur de l'université de Lubumbashi, et puis à la faculté des sciences, voilà, des sciences agronomiques, département de gestion des ressources naturelles, et il est également directeur de l'observatoire des forêts claires de la République démocratique du Congo. Professeur Jonathan Mouledi, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on va les relancer dans les minutes qui suivent. Alors, la question vous intéresse, le sujet vous intéresse. Composez le 085 42 11 547. Professeur Jonathan Mouledi, vous êtes là?
Oui, je suis là. Vous allez bien?
Oui.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, maintenant ça va mieux, bien qu'il y ait encore de quelques échos, mais ça va bien. Alors, nous parlons de la protection des forêts communautaires en République démocratique du Congo. La première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par forêt communautaire.
Bon, une forêt communautaire, c'est un espace géographique qui a été octroyé à titre perpétuel par les autorités étatiques, notamment en province par le gouverneur, qui a pris un arrêté et qui octroie à titre perpétuel une partie ou une partie du terroir aux communautés pour que ces dernières l'exploitent à titre perpétuel selon les lois du pays en rapport avec la gestion de l'environnement et de la protection de la biodiversité.
Voilà, c'est ça qu'on appelle forêt communautaire. Alors, on a appris que de plus en plus les forêts communautaires ces espaces sont menacés par l'expansion des opérations minières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, exactement. Il n'y a pas que l'expansion de l'exploitation minière qui menace l'existence des communautés locales. Il y a plusieurs facteurs, si bien qu'évidemment aujourd'hui on parle de l'exploitation minière à titre singulier. Donc il y a par exemple l'ouverture des routes pour accéder aux carrés miniers. Ça, c'est également une menace non négligeable, parce que cette ouverture de route permet aux exploitants d'accéder à des massifs forestiers qui autrefois étaient inaccessibles. Et ça leur permet justement de fragmenter le paysage et de pouvoir davantage menacer les concessions forestières de communautés locales. Il y a également la présence des carrés miniers dans les CFCL, et ce qui crée évidemment un conflit entre les tenanciers des sociétés minières et aussi les responsables des concessions forestières de communautés locales. Il y a aussi les activités à l'intérieur de ces concessions forestières de communautés qui génèrent, si vous voulez, des pollutions et qui impactent la vie quotidienne des membres de communautés locales dans leurs activités quotidiennes. Voilà.
Voilà, ce sont là les différentes activités qui menacent les forêts communautaires. Par exemple, là, au niveau de la province du Haut-Katanga, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des forêts communautaires qui sont menacés par toutes ces activités que vous venez de décrire?
Oui, alors il faut d'abord dire que dans la ceinture verte de la ville de Lubumbashi, au Katanga, plusieurs concessions forestières des communautés locales ont été mises en place, qui représentent à peu près 300 000 hectares au jour d'aujourd'hui. À l'intérieur de ces 300 000 hectares, nous avons 20 concessions forestières des communautés locales qui ont déjà reçu leur titre à titre perpétuel. Il y a aussi des initiatives de foresterie communautaire qui, évidemment, sont en cours de processus pour obtenir les arrêtés du gouvernement. Alors, ces concessions sont disséminées sur différents axes. Nous avons l'axe Kasenga, Lubumbashi-Kasenga, l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa, Kipushi, Sakanya, l'axe Lubumbashi-Likasi. Alors, les concessions forestières qui sont les plus menacées, ce sont celles qui se trouvent sur l'axe Likasi. Ces concessions, évidemment, sont, si vous voulez, dans la ligne de mire des concessions minières. Nous, on a plusieurs sociétés, évidemment, qui opèrent donc sur cet axe et qui menacent, évidemment, l'existence ou bien la gestion de ces concessions forestières des communautés locales.
Voilà, donc c'est beaucoup plus sur l'axe Likasi. Et maintenant, on parle souvent des chevauchements des titres. Les communautés détiennent des titres et les exploitants également viennent et brandissent des titres d'exploitation. Alors, comment expliquer ces chevauchements des titres sur une même surface?
Oui, en fait, ici, il faut d'abord noter que lorsque les concessions forestières des communautés locales ont été mises en place, il y avait un important travail de cartographie participative qui avait été mené à son temps pour pouvoir faire des limites de ces concessions forestières des communautés locales afin d'éviter tout chevauchement. Donc, il y avait évidemment toutes les cartes, si vous voulez, de la zone qui était exploitée par les ONG qui ont accompagné les communautés locales à la mise en place de leur CFCL pour éviter justement tous ces chevauchements-là. Il y a par endroits où il y avait des chevauchements, les CFCL n'ont pas été mises en place à cause de ce problème-là. Alors maintenant, après la mise en place de ces CFCL, la cartographie participative, les inventaires multiressources ayant été faits, on s'aperçoit que parfois les exploitants miniers viennent avec de nouvelles cartes pour réclamer des terres à l'intérieur des concessions forestières des communautés locales. Et parfois, les communautés locales se trouvent au dépourvu parce que lorsqu'elles regardent leurs cartes qu'elles ont pu instituer à la suite d'un processus assez cohérent selon la loi, ils s'aperçoivent que les miniers qui viennent, certains miniers bien sûr, pas tous, ils apportent de nouvelles cartes avec de nouveaux titres, nous pouvons le dire ainsi, mais qui sont, entre guillemets, antidatés. Vous voyez? Alors, si ça, évidemment, c'est un problème assez sérieux qui empêche les communautés locales de prendre à bras le corps, n'est-ce pas, leur gestion au sein de leur propre concession forestière des communautés locales. Parce que les exploitants, parfois, ils viennent avec de nouveaux titres, mais qui les antidatent. Et ça crée un conflit, ça génère un conflit au sein des concessions, au sein des CFCL. Ça veut dire que les CFCL, ils avaient fait leur cartographie participative, ils ont, si vous voulez, obtenu leur carte, et puis à l'issue de tout cela, le gouverneur a pris un arrêté pour leur donner, à titre perpétuel, leur terroir pour la gestion communautaire et durable des massifs ou bien des paysages qui sont là-dedans. Quelques années plus tard, la convoitise monte dans le paysage et puis nous avons des exploitants miniers qui reviennent maintenant pour réclamer des terres en disant « Regardez notre carte, nous étions là avant vous, alors que vous êtes venus après et donc vous devez nous céder nos terres. » Alors que toutes ces concertations, les processus CLIP ayant été faits avant et aujourd'hui, évidemment, ce conflit-là existe. C'est un problème de conflit foncier, on va le dire ainsi.
085 42 11 547, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Bien, professeur Jonathan Mouledi, que représentent ces concessions forestières pour les communautés autochtones ou riveraines?
En fait, si vous voulez, au moment de l'indépendance, nous avons, vous le savez très bien aussi, nous avons de la coutume. C'est-à-dire que nous avons des terres coutumières, mais ces terres coutumières n'avaient pas de documents. Et évidemment, nous avons des chefs qui administrent des entités, mais qui n'ont pas, si vous voulez, des documents officiels qui prouvent que ils sont des tenanciers de telles portions de terre, etc. Ça, c'est un premier paradigme. Un deuxième paradigme, c'est celui-ci. Nous voulons aller vers la gestion durable des paysages et des massifs forestiers. Les scientifiques que nous sommes, nous ne pouvons pas gérer les massifs sans les communautés locales que nous considérons comme les intendants de forêt. Et il y a aussi le ministère qui, même de bonne foi, sera incapable, si vous voulez, de gérer les massifs de manière durable pour les générations futures et pour combattre les changements climatiques. C'est ainsi que l'État congolais a réfléchi pour mettre en place ce vaste programme ambitieux des concessions forestières des communautés locales afin d'impliquer ces communautés locales à la gestion durable de leur propre terroir. Mais pour cela, il faut délimiter de manière géographique, il faut que ces communautés aient des titres officiels qui leur donnent le droit d'exploiter dans les limites, si vous voulez, des terroirs qui seront faits sous forme de concessions forestières des communautés locales. Ça, ce sont les trois paradigmes qui ont conduit, si vous voulez, ou bien qui ont motivé la mise en place de ce programme de foresterie communautaire au niveau national. Alors maintenant, en descendant, en dupliquant cela dans les différentes provinces, ici, on s'est aperçu que nous avons des communautés locales dans la ceinture verte de la ville de Lubumbashi qui se font déposséder des terres, alors que ces communautés vivent, si vous voulez, au quotidien de leurs propres des ressources qui sont dans leur paysage. Alors, c'est ainsi que ce programme a été mis en place. L'État a cherché les moyens à travers les partenaires techniques et financiers pour pouvoir mettre en place ces programmes dans les différentes provinces. Ici, il faut noter qu'il n'y a pas que le Haut-Katanga, il n'y a pas que le Kivu. Hein. C'est partout, c'est un programme national. Alors, ceci, évidemment, est très important parce que nous nous sommes aperçus que les communautés locales qui ont été encadrées dans les concessions, donc à travers les processus de concession forestière des communautés locales, comprennent maintenant l'importance de la gestion de la biodiversité, protègent la biodiversité par elle-même, évidemment, et sont plus conscientes, si vous voulez, de la protection de l'environnement aujourd'hui qu'auparavant. Donc, un programme comme celui-là ne peut qu'être salué, tant au niveau national qu'au niveau provincial, pour que nous puissions être capables, à l'unisson, de gérer les massifs forestiers autour des villes et même en dehors des villes un peu plus loin pour que ces massifs puissent, dans la suite de temps, servir aux générations futures. C'est cela, si vous voulez, par définition simple, la gestion durable des ressources naturelles.
Bien, nous allons accueillir les auditeurs tout à l'heure. Nous rappelons le numéro par lequel vous pouvez intervenir dans cette émission, 085 42 11 547. Nous parlons de la protection des forêts communautaires. Mais professeur, si aujourd'hui il y a cette affaire des chevauchements, il y a cette poussée, cette menace de l'exploitation minière sur les forêts communautaires, d'après certains, c'est parce qu'il y a un vide juridique et une faible coordination entre les autorités et les autres parties prenantes. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Oui, c'est en partie aussi une des raisons. Le vide juridique ne se fait pas constater que dans ce domaine-là. Le vide juridique se fait constater presque dans tous les domaines de la vie sociale dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette espèce de synchronisation des textes entre les différents ministères, entre les différentes entités opérant dans les secteurs de l'environnement, pour ne citer que cela. Et aussi les acteurs de terrain ne sont pas suffisamment formés, si vous voulez, pour être capables d'accompagner les communautés locales en ce qui concerne les textes légaux. Alors, les textes légaux évoluent très vite, mais l'application sur le terrain et même l'appropriation à la fois par les acteurs, par les parties prenantes et aussi par les communautés locales peine à venir. C'est pour cela que la législation, nous pouvons le dire ainsi, pose problème. Mais la législation, dans sa conception, ne pose aucun problème. Le problème, c'est au niveau de l'application, au niveau du renforcement des capacités, je cite, parce que dans l'application, il y a le renforcement des capacités des acteurs de terrain, c'est-à-dire les agents des ministères, les agents des coordinations provinciales de l'environnement, de l'agriculture, etc., et aussi les parties prenantes sur le terrain, les secteurs, etc. Et donc ça, ça pose évidemment un sérieux problème parce que les uns gardent encore en mémoire les textes qui datent d'il y a 10 ans, les autres ont les textes d'il y a 5 ans. Vous ne serez pas surpris d'aller dans les secteurs et de trouver des gens ou bien des acteurs qui gardent encore en mémoire des textes d'il y a 30 ans. Donc, c'est-à-dire que ce cheminement du texte juridique n'est pas cohérent au point que les communautés locales, les acteurs ne savent pas s'en approprier pour la bonne gestion de la chose qui nous intéresse ici, pour dire la biodiversité.
Comment protéger les forêts communautaires en République démocratique du Congo? 085 42 11 547. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Pour que la paix ne soit pas
bien, en République démocratique du Congo, de nombreuses concessions forestières des communautés locales censées protéger la biodiversité sont menacées par l'expansion des opérations minières qui empiètent sur des multiples concessions. Voilà, il y a l'exploitation minière, il y a également les traçages des routes et d'autres activités qui polluent ces forêts. Aujourd'hui, professeur Jonathan Mouledi, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui ces forêts communautaires sont menacées? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les protéger face à toutes ces menaces que vous venez de d'énumérer?
Bon, il y a, parce que vous avez parlé tantôt du contexte juridique qui pose problème, vous avez parlé d'un vide juridique, mais il n'y a pas qu'un vide juridique comme nous l'avons expliqué, mais il y a aussi le problème des textes en soi, l'interprétation des textes. Il y a par exemple les textes juridiques qui disent que les mines ont prévalence sur toute autre activité, sur l'agriculture, sur l'environnement, etc. Et donc, ça c'est un texte, je pense, qui peut-être a été mal interprété par les acteurs, mais aussi, il faut bien vulgariser ces textes-là pour que les acteurs, au niveau de la base, comprennent ce que ça signifie. Oui, nous pouvons dire que les mines ont prévalence, par exemple, sur l'environnement, sur la biodiversité, etc. C'est-à-dire que lorsque moi je suis un exploitant minier, je convoite une terre quelque part, quel que soit ce qu'il y a sur cette terre, parce que je suis un exploitant minier, parce que les mines prévalent, et donc j'ai le droit de premier rang de pouvoir exploiter cette portion de terre. Je crois qu'il faudra essayer de contextualiser cela parce que si nous allons dans ce sens-là, toute la biodiversité va disparaître parce que le Congo tout entier est quadrillé en carré minier. Ça, vous le savez très bien. Donc, il faut évidemment essayer de contextualiser, mais essayer aussi, à un certain moment, d'assouplir cette loi-là pour que les miniers ne se considèrent pas comme étant au-dessus de toute autre activité qui se fait. Parce que l'homme ne vit pas que des mines. Au Congo, on ne vit pas que des mines. Au Congo, on vit de toutes autres activités qui concourent à la vie et au bien-être à la fois des générations actuelles, mais potentiellement aussi des générations futures. Alors, les ressources naturelles renouvelables à l'échelle humaine, ce sont les forêts, c'est l'agriculture, etc. Ce sont des ressources qui, à mon avis, doivent être protégées. Il faut qu'il y ait probablement une loi concurremment à celle-là qui donne assez de pouvoir aux mines. Nous vivons dans les zones minières et nous voyons l'impact de ces zones minières, enfin de ces activités minières sur la biodiversité. Et donc si on laisse cette loi continuer comme telle, je pense que à la longue, il y aura un sérieux problème. Ça, c'est un élément évidemment qu'il faut prendre en compte, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en même temps, l'État fait des efforts pour mettre en place des concessions forestières des communautés locales, organiser ces dernières pour être capable de gérer durablement les ressources pour les générations futures. En même temps aussi, le même État donne beaucoup de prévalence à l'activité minière, et donc il y a quelque chose, un déséquilibre juridique, je peux dire. Voilà un peu, de mon point de vue, cette situation nécessite, si vous voulez, peut-être un amendement ou une clarification au niveau des textes légaux.
Et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à cet amendement-là? Qui doit entreprendre des démarches? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Bon, l'État est d'abord conscient de cela, parce qu'on a organisé plusieurs forums, plusieurs conférences, etc., pour dénoncer cette situation. Bon, pas pour dénoncer, mais pour faire voir, si vous voulez, dans l'application, les pour et les contre, les points positifs et les points négatifs de ce texte-là. Il faut que l'État, si vous voulez, fasse un amendement à cette loi ou à cette disposition légale. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut que les communautés locales soient suffisamment renforcées en capacité pour qu'elles comprennent toute la mécanique juridique autour, si vous voulez, de la gestion de l'environnement et de la gestion de la biodiversité. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il faut que l'État puisse aller, d'ailleurs, il y a déjà, si vous voulez, un processus qui s'est mis en route depuis quelques 2-3 ans derrière ici, sur l'aménagement du foncier, l'aménagement du territoire, etc. Il faut aller, évidemment, le renforcement, si vous voulez, de ces textes-là, pour que ce qui est prévu dans l'aménagement du territoire, dans l'aménagement foncier, etc., soit mis en application, mais que cela se superpose et que l'on superpose la carte des concessions forestières des communautés locales sur le plan national d'aménagement du territoire et d'aménagement du foncier. Et je l'ai dit déjà, les communautés locales doivent aussi être capacitées, mais aussi être encadrées par l'État ou par, si vous voulez, où l'État peut faire des facilitations pour que les communautés locales se positionnent comme des réceptacles pour recevoir, si vous voulez, des projets, mettre en place, pour implémenter des projets qui vont leur permettre d'avoir plus de revenus, de rester sédentaires dans leur milieu et de pouvoir, si vous voulez, gérer correctement leurs concessions forestières des communautés locales. Ça, ce sont, à bâton rompu, si vous voulez, des axes sur lesquels l'État peut se lancer, ainsi que les communautés. Alors, les scientifiques aussi, de notre côté, nous faisons notre part, nous accompagnons les communautés, nous les aidons, nous les renforçons en capacité. C'est tout ce qu'on peut faire, parce que notre mission, c'est former, enseigner, et puis rendre service à la communauté. Nous le ferons, nous le faisons. Nous voulons aussi que l'État puisse aider ces communautés ou les accompagner dans ces processus-là correctement, comme il avait déjà fait.
Bien, professeur Jonathan, quelles sont les différentes ressources que les communautés locales riveraines tirent de ces concessions forestières de communautés locales?
Bon, les ressources sont les gens. Vous savez, les communautés locales, dans leur perception, elles considèrent la forêt comme leur banque. Et donc, sans la forêt, les communautés locales ne peuvent pas vivre. Toute leur vie dépend des forêts. Toute leur vie, si vous voulez, dépend de la ressource forestière ou de la ressource naturelle qui se trouve dans leur paysage immédiat. C'est pour cela que ces communautés ont accueilli à bras le corps, pour la plupart, ce projet de foresterie communautaire. Parce qu'ils ont compris que sans ce processus de foresterie communautaire, ils allaient perdre leur terroir, ils allaient perdre même leurs ressources et ne pouvaient pas vivre. Donc, la vie dépend, leur vie dépend de ressources qu'ils trouvent dans leur environnement immédiat. Ils font de l'agriculture sur brûlis. Ils font parfois même des petites fermes, des fortunes dans leurs concessions forestières de communautés locales. Ils extraient du bois, ils fabriquent du charbon pour le commerce, du charbon de bois pour le commerce. Et donc, l'augmentation ou bien les moyens de subsistance des communautés locales vient principalement des ressources naturelles qui se trouvent dans leur paysage immédiat. Donc, toute leur vie. Certains d'ailleurs sont dans les communautés locales, il y a des familles qui sont dans les communautés locales, qui vivent là-bas, pendant des années et qui envoient leurs enfants à l'université pour étudier avec les ressources qu'ils tirent naturellement des communautés. Ils font le charbon, le makala, ils font l'agriculture, ils font la pisciculture, etc. Donc, ils font plusieurs activités dans ces concessions forestières des communautés locales. Voilà pourquoi ils protègent ces communautés, ces concessions, et ils sont maintenant conscients de tout cela. D'ailleurs, je vais terminer par là, il y a ceux qui n'ont pas accepté de venir dans le processus de mise en place des concessions forestières des communautés locales. Aujourd'hui, ils viennent maintenant, par exemple, à la FAO, ils viennent à la Coordination provinciale de l'environnement pour demander qu'on les intègre aussi dans le processus de foresterie communautaire. Mais ce n'est pas toujours facile, ça ne vient pas par un coup de bâton magique, c'est-à-dire qu'il faut un processus bien mis en place, il faut des fonds, il faut des renforcements de capacités. Donc c'est tout un programme, si vous voulez. Voilà un peu, de manière brève, si je peux dire, la vie des communautés locales dépend des ressources naturelles, renouvelables, qui se trouvent dans leur paysage forestier et paysage environnemental immédiat.
Bien, j'imagine que ces communautés tirent toutes, comme vous venez de les dire, les ressources. Ça peut être du bois, ça peut être l'agriculture et autres. Mais à un certain moment, est-ce que ces communautés n'exercent pas une forte pression sur ces concessions forestières?
Oui, exactement. Les communautés exercent une forte pression parce que ces communautés vivent des ressources qui se trouvent dans leurs concessions. Ça, c'est logique, c'est normal. Mais maintenant, il faut, c'est pour ça que j'ai dit que l'État ainsi que les autres partenaires peuvent toujours venir en appui aux membres de communautés locales, c'est que il faut imaginer de mettre en place un programme ou un projet d'activité alternative à la coupe de bois. Parce que ici, par exemple, dans la ceinture verte de Lubumbashi, Lubumbashi se positionne comme un centre de négoce, parce que ça fait plusieurs millions d'habitants. Mm-hmm. Et donc, comme nous n'avons pas d'énergie, tout le makala vient de la périphérie, principalement de ces concessions forestières des communautés locales. Même si nous les avons, avec les autres partenaires et tout ça, nous les acteurs, nous les avons encadrés, nous les avons formés pour qu'ils gèrent durablement et qu'ils exploitent durablement leurs ressources, mais face à la demande croissante de charbon, de bois ou d'énergie, ces concessions envoient de plus en plus des tonnes et des tonnes de makala dans les centres-villes de Lubumbashi. Donc il y a une forte demande. Mais maintenant, il faut penser à la mise en place d'un programme, des activités alternatives génératrices de revenus à la coupe, donc alternatives à la coupe de bois principalement, parce que la plus grande cause de déforestation dans les concessions forestières des communautés locales, c'est le charbon de bois. Autrefois, on a parlé d'agriculture itinérante sur Brilly, mais aujourd'hui, en tout cas, la tendance semble s'inverser. Maintenant, il me semble que, d'après mes observations, il me semble que c'est plutôt le makala qui semble être le premier moteur de déforestation dans les concessions forestières des communautés locales, dans la ceinture verte de la ville de Lubumbashi.
Bien, 085 42 11 547, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour intervenir dans cette émission de La Vie au quotidien. Nous parlons de la protection des concessions forestières des communautés locales. Adroma Daniel, vous êtes à Mombasa, en Ituri. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Bon, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une préoccupation par rapport au sujet du jeu.
Oui.
Alors, monsieur le journaliste, comme vous le savez, à l'RDC, il n'y a pas un espace non minéralisé. On constate que la foresterie communautaire, jusqu'aujourd'hui, souffre d'application. Tout cela, c'est par manque de l'aménagement des territoires qui ne se fait pas dans notre pays. Et aussi, il n'y a pas de cartographie nette où on a fait des zonages, par exemple, en associant les cadastres miniers, les ministres, par exemple, de l'environnement, les ministères, par exemple, de l'agriculture de l'intérieur et d'autres services, afin de ressortir clairement, par exemple, à part les parcs nationaux et les réserves qui sont déjà effectuées par des lois, les forêts communautaires ne sont pas vraiment identifiables pour le moment. Les zones minières aussi, et les zones habitables ne sont pas aussi identifiables. Aussi même les zones agricoles. Alors, maintenant, il y a vraiment assez de difficultés. Par exemple, chez nous ici, au niveau de la province de Ituri, à Mambasa, il y a beaucoup d'exploitations minières qui se font par les sujets chinois et les exploitants artisanaux, avec comme conséquence vraiment les chevauchements de titres, par exemple, qui se fait, il y a des titres miniers, il y a des opérateurs miniers qui arrivent, des sociétés qui arrivent, qui disent que bon, nous avons des permis de recherche, ils prennent des concessions, et aussi la communauté est en train de vendre cet espace par-ci par-là pour l'agriculture. Il y a des gens qui font déjà fermer par-ci par-là pour l'implantation des cacaoyers, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de désordres.
Merci. Alors, beaucoup.
À ce qui concerne vraiment la...
Oui.
À ce qui concerne la gestion des forêts communautaires, il va falloir vraiment qu'on puisse associer tous ces services-là pour qu'on fasse une bonne cartographie et bons horaires pour nous permettre de bien gérer les forêts.
Bien, merci beaucoup Daniel Adroma depuis Mambasa en Ituri. On va donner la parole à Monsieur Jonas Kirikou. Monsieur Jonas, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bien, vous êtes journaliste senior à Infonil, basé à Beni. Vous êtes spécialisé Infonil, qui est spécialisé dans les enquêtes sur les crimes environnementaux, et vous êtes vous-même aussi boursier de Rainforest Investigation Network 2025 des Pulitzer Center. Alors, parlez-nous de l'enquête que vous avez eu à mener sur la situation des concessions forestières des communautés locales. Qu'est-ce qui avait motivé cette enquête et quels sont les résultats obtenus?
Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité, parce que ça manque souvent des articles qu'on publie mais qui ne sont pas vulgarisés. Donc, je crois que c'est un moment d'interagir avec les lecteurs, les auditeurs. Alors, l'enquête a consisté à mener une analyse géospatiale sur le permis minier et les forêts communautaires. Nous voulions savoir, est-ce qu'il y a-t-il un chevauchement entre le permis minier et les concessions forestières des communautés locales, ce qui était le cas. Et alors, nous avons donc analysé les données du cadastre minier, c'est-à-dire tous les polygones qui étaient à notre disposition. C'est donc des données qui étaient actuelles jusqu'à mars 2025. Nous avons aussi analysé les concessions de forêts communautaires qui venaient d'être attribuées dans cette période-là, c'est-à-dire mars 2025. Et alors, nous voulions faire quoi? Nous voulions chercher les noms du propriétaire du permis. Est-ce que c'est un permis qui est encore sous statut actif ou inactif? Est-ce que il porte sur quelle substance minérale? Quelle est l'identité du propriétaire? Mais aussi, nous voulions savoir sa partie, la surface qui chevauche avec les forêts communautaires. Donc, ce sont des éléments-là qui nous ont permis alors de découvrir que environ 9% de concessions forestières des communautés locales se chevaucher avec le permis minier. Oui. Ça nous a permis aussi de montrer à quel point la province du Sud Kivu, le Nord Kivu, ainsi que les Haut-Katanga étaient le plus concernés par ces chevauchements. Voilà.
Bien. Et à la fin de votre enquête, quels sont les résultats, quelles sont les conclusions?
Voilà. Les conclusions montrent que il y a des forêts communautaires qui elles aussi chevauchent le permis minier. C'est-à-dire que le permis minier a une antériorité par rapport à la création de forêts communautaires. Mais aussi dans l'autre cas, ce sont le permis minier qui ont été créés après l'installation de ces forêts communautaires. Et dans ce cadre, nous avons trouvé que plus de 100 permis miniers avait été donc créée avant la création de forêts communautaires, tandis qu'une quarantaine sont venus se chevaucher, ils sont venus se greffer donc dans des forêts communautaires. Mmh. Et il y a même des permis de se chevaucher, André. Donc c'est parmi ces résultats-là que nous avons eu à trouver. Mais il faut aussi souligner des détails, c'est que les communautés locales n'étaient pas au courant de l'existence de ces permis-là. Alors, quand est-ce que les géologues ont été sur le terrain? Est-ce que les communautés locales étaient censées être consultées selon la loi? Voilà.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que quelque part il y a corruption, voilà? Et surtout que le professeur, tout à l'heure, Jonathan, a parlé des documents antidatés de la part de certains miniers. Donc, on peut conclure par là ou comprendre qu'il y a corruption.
Oui, d'un aspect, ça a toutefois le confirmé parce qu'on n'a pas d'évidence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a légèreté de la part de toutes les parties prenantes. Parce que les organisations qui sont censées accompagner les communautés locales doivent vérifier si le terre qui ont été demandé par les communautés ne font pas l'objet d'un autre permis. Mais aussi, le service étatique, notamment le service de l'environnement, le service provincial de l'environnement, est censé vérifier si la demande est conforme. Mais aussi, c'est-à-dire que tout le monde doit mener une vérification, que ce soit au service du cadastre, que ce soit au service de l'environnement, que ce soit de la part des organisations. C'est-à-dire qu'il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas fait très bien son travail. Et donc, ce résultat-là témoigne.
Bien, M. Jonas est resté en ligne. Professeur Jonathan Mouledi, vous venez de suivre les propos de Jonas. Un commentaire?
Oui, je pense que avec M. Jonas et moi-même, ainsi que le premier intervenant, nous sommes dans la même réflexion, et je pense qu'il y a un problème dans le sens que le plan d'aménagement du territoire n'est pas superposé ou superposable au plan de concession forestière de communautés locales au niveau de l'ensemble du pays. Tous les autres permis, comme M. Jonas vient de le dire, effectivement, ne sont pas suffisamment vulgarisés pour que on puisse, si vous voulez, mutualiser les différentes interventions, à la fois du ministère de l'Aménagement et du Territoire, environnement avec la concession forestière des communautés locales, les mines avec les cadastres miniers, etc. Donc, il faudra, si vous voulez, mettre tout le monde ensemble pour superposer les différentes cartes et voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Parce que si aujourd'hui nous n'avons pas encore de problèmes assez visibles, c'est-à-dire les affrontements entre les communautés, etc., c'est parce que c'est peut-être encore au début, mais plus tard, nous pensons qu'il y aura des problèmes. Donc, il faut anticiper. Mmh. Il faut anticiper dans le sens de mettre tous les acteurs ensemble pour éviter tout ce problème de légèreté dans l'utilisation ou bien l'application des textes ou bien dans la mise en place de certains processus des forceries communautaires ou bien de cadastres miniers, etc. Donc, il faut que tout le monde se mette autour d'une table. Je pense qu'une telle rencontre n'a pas encore été organisée, à mon avis, entre le ministère d'Aménagement du Territoire, l'Environnement, les mines, etc., pour mettre ensemble tous ces acteurs. Je pense que ça serait une très bonne proposition qui ne résoudrait pas à 100% le problème, mais qui permettrait de répondre tant soit peu au problème que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que les mines, les miniers qui posent problème, mais il y a aussi les chefs coutumiers aussi parfois qui sont avides d'argent, qui font des alliances, si vous voulez, contre nature, sans pour autant, parler avec leur sujet de concert. Mmh. Maintenant, ils font des alliances ou bien ils font des contrats avec telle ou telle autre entité pour faire des activités ou bien pour céder des terres, etc. Mais ça, encore, c'est un autre problème qui nécessite un aménagement ou bien une réorientation.
Bien, on va accueillir M. Gentil Bassokwamba depuis la ville de Kananga. Gentil, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, aujourd'hui Daniel Kachama, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio au Capit qui me suivent en ce moment. et bonjour aussi à notre invité vraiment.
Quelle est votre question?
Je voudrais seulement poser quelques questions par rapport au sujet du jour.
Oui.
Ok, la première question. Les richesses minières de la RDC doivent-elles être exploitées au détriment des forêts communautaires et de l'environnement? Pourquoi? Les communautés locales sont-elles suffisamment consultées avant l'octroi des permis miniers qui empiètent sur leurs forêts? Quelle est votre expérience? Troisième question. Qui doit être tenu responsable lorsque des concessions minières et des forêts communautaires
s'échevauchent? Oui.
Oui, oui. L'État, les entreprises minières et les services techniques concernés. Quatrième question, s'il vous plaît. Quelles mesures concrètes le gouvernement devrait-il prendre pour concilier la protection de la biodiversité et l'exploitation des minéraux stratégiques indispensables à l'économie nationale?
Merci beaucoup déjà, c'est beaucoup, monsieur Gentil.
Les populations, s'il vous plaît, les populations.
Merci beaucoup. On peut s'arrêter par la 5 questions, c'est déjà beaucoup. Monsieur Jonas Kirico, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur Gentil par rapport à ses préoccupations?
Oui. Qui peut être tenu pour responsable par rapport à ces situations-là? C'est que tous ces services-là, c'est lui qui octroie le permis minier sur le cadastre minier. Ça, c'est les services étatiques, c'est les services techniques qui relèvent du ministère de mines. Il y a aussi il y a l'agence l'ACE. Je crois que le professeur pourra dire plus par rapport à cette agence là, mais c'est l'agence qui essaie de certifier que toute activité, que ce soit minière ou autre, est conforme à la conservation de l'environnement. C'est-à-dire que ces services là ne font pas réellement leur travail correctement. Ou ils les font avec complaisance, ou ils ne les font pas du tout. C'est-à-dire que l'État est à la fois en train de vouloir promouvoir, c'est-à-dire en créant le concession forestière des communautés locales, mais au même moment, l'État est en train de donner un outil de destruction de ces forêts communautaires-là. Mmh. C'est-à-dire que c'est un problème qui doit être décanté au niveau de l'État. Je crois qu'ils savent ça et ils ferment seulement les yeux. Voilà où on en est. Comme le professeur a eu à les craindre, oui, dans l'avenir, ça peut créer des frustrations au sein des communautés jusqu'à les créer
des confrontations
qui peuvent être intenables. Mmh. Ouais.
Bien, professeur Jonathan Mouledi, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. Je pense que le premier responsable, c'est d'abord l'État. Parce que l'État est plus puissant que quiconque. Il n'y a pas un service qui soit supérieur à l'État. Les concessions forestières, aujourd'hui, si elles ont ce problème-là, avec les miniers, par exemple, c'est parce que l'État ne les a pas encore mises ensemble. Les différents services de l'État ne sont pas encore mis ensemble. Nous avons parlé du cadastre minier, mais il faut aussi parler du cadastre foncier de manière générale. Ici, dans la zone, c'est un problème aussi important, parce que c'est lui qui va faire le bornage, par exemple, dans les concessions forestières ou bien ailleurs. C'est pas le cadastre minier, forcément. C'est le cadastre foncier tout court qui fait ça. Mais si tous ces services ne sont pas mis ensemble, nous ne pouvons pas espérer trouver la solution, une solution durable. Il faut que les différents acteurs de ces services-là, y compris la CE, comme vous l'avez dit, tous ces services, si vous voulez, qui ont un impact, tant bien que mal, un impact, quelle que soit sa grandeur, au niveau de l'environnement, se mettent ensemble autour d'une question centrale. Et cette question-là doit être résolue ensemble avec les inputs du cadastre minier ou du ministère des Mines, plus généralement, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Aménagement du Territoire, les différents acteurs locaux, les scientifiques par exemple. Je pense qu'il faut aller vers cette approche-là, parce que si nous allons comme tel, à un moment donné, même les CFCL, les concessions forestières de communautés locales, qui sont actuellement cartographiées et dont les cartes sont même postées sur le site du ministère de l'Environnement,
oui.
Demain après demain, il n'y aura plus rien. Ce seront des cartes virtuelles, mais sur le terrain, nous ne serons pas capables de pouvoir doiter ou bien délimiter ces zones-là de manière physique. C'est pour ça que il faut vraiment qu'une action concertée soit mise en place et pour pouvoir mettre tout le monde ensemble, réfléchir autour de cette question-là, de sorte que les actions du gouvernement dans le domaine de l'implémentation du vaste programme des concessions forestières de communautés locales ne soient pas annulées par le gouvernement lui-même à travers un autre ministère, celui des mines, ou à travers un autre service, comme le cadastre minier. Donc, c'est-à-dire que oui. l'État ne doit pas tomber dans ce qu'il construit et détruire également ce qu'il construit. Il ne doit pas tomber dans l'autophagie, on va dire.
D'accord.
Voilà un peu la crainte que moi j'ai. Je souhaite vraiment que les gens, que les différents services se mettent ensemble autour des acteurs, etc., et qu'on pose le problème sérieusement et qu'on puisse trouver des pistes de solutions.
Bien, on est presque à la fin de cet entretien. On va accueillir un dernier auditeur. Brunel Ndombe, vous êtes à Bandounouville, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour monsieur Joly, bonjour également à l'invité de la radio Okapi. Merci d'abord pour m'avoir associé à ce débat.
Rapidement, et on n'a plus, il nous reste que quelques secondes. Allez-y rapidement.
Oh oui, merci. Alors, moi je disais qu'il n'y a pas seulement que ça dans le secteur minier, et également aussi dans la province de Kilo, nous avons connu également ce même problème avec des menaces. Il y a la société Cap Congo qui avait même signé un contrat ici, et ce contrat avec 42 000 hectares. Mmh. Et cela aussi a menacé bien sûr les activités de fermiers et ceux qui habitent bien sûr dans le territoire de Bagata. Donc cette oui. situation, vous savez très bien que c'est ce qui amène plusieurs conflits et dans notre communauté. Dernièrement, c'était bien sûr avec le conflit Tekeyaka, c'est toujours le même problème. Il prend bien sûr des concessions, de grands hectares, avec bien sûr, on ne sait pas comment est-ce que ces contrats-là sont signés. Est-ce que c'est signé à partir de Kinshasa ou c'est à partir de la province? C'est ça aussi que je voulais te comprendre.
Merci beaucoup, Brunel. Merci beaucoup. Voilà, le professeur a dit tout à l'heure, en conclusion, il faut mettre toutes les parties prenantes sur une même table et trouver des pistes et solutions. Merci beaucoup, professeur Jonathan. Nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes professeur de l'Université de Lubumbashi, faculté des sciences agronomiques, département de gestion des ressources naturelles. Et nous disons également merci à monsieur Jonas Sakiriko, journaliste et senior à InfoNil, basé à Beni, et voilà, un ancien boursier du Pultiser Center. Excellente journée à vous et à la prochaine. Merci.